Radio Capi. Oh, Capi.
Le journal. Gisèle Cage à la présentation.
Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester à l'écoute de Radio Capi. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Voici le titre de l'actualité de ce soir. Passeport biométrique, 2 semaines d'attente, des centaines de citoyens dans l'impasse. Entre espoir et déception, les allers-retours au ministère des Affaires étrangères se multiplient sans réponse officielle. Qu'est-ce qui bloque? Enquête à découvrir dans un reportage de Radio Capi. Maniema face à la rougeole, plus de 10 000 cas et 500 décès depuis janvier. La situation sanitaire devient critique entre défis logistiques, zones enclavées et faible couverture vaccinale. La riposte peine à s'organiser. Remède et MSF lancent un appel urgent à la mobilisation pour éviter une catastrophe humanitaire. Accord minier RDC-USA, Eugène Diomi salue un partenariat stratégique qu'il compare à un plan Marshall pour le pays. Invité de ce journal, l'ancien ministre des Mines exprime son optimisme quant à cet accord qui pourrait, selon lui, favoriser la paix dans l'Est et valoriser les ressources minières congolaises à travers leur certification et leur monétisation. Restez à l'écoute pour ne rien manquer. Ce journal s'ouvre par un sujet qui continue de faire débat. Le nouveau passeport congolais. 2 semaines après le lancement de l'opération, des centaines de citoyens attendent toujours leurs documents sans aucune réponse concrète. En effet, depuis le 5 juin, le gouvernement congolais a officiellement lancé l'opération de délivrance du nouveau passeport biométrique fixé à $75. Une initiative saluée pour sa modernisation, mais qui, sur le terrain, relève déjà des sérieuses failles. Alors que le président de la République et plusieurs membres du gouvernement ont pu obtenir leur précieux sésame sans encombre, la réalité est tout autre pour de nombreux citoyens. 2 semaines après le coup d'envoi de l'opération, des centaines de Congolais ayant payé le frais requis continuent de faire la navette entre leur domicile et le ministère des Affaires étrangères pour répartir les mains vides. Pourquoi ces blocages? Que dit le gouvernement? Et surtout, quelles sont les difficultés rencontrées par la nouvelle entreprise chargée de l'impression de ce document stratégique? Radio Capi a mené l'enquête. Un reportage signé Blaise Shindani Kambala et Plotin Yambenga.
Chaque jour qui passe, des centaines de citoyens prennent d'assaut les ministères des Affaires étrangères en quête du passeport, ces documents leur permettant de voyager à travers le monde. Toutefois, les processus d'obtention semblent bloqués. Du côté du ministère, plusieurs raisons sont évoquées pour justifier ces retards. Cet agent ayant requis l'anonymat en dévoile quelques-unes.
L'ancienne firme Locosem avait reçu beaucoup de demandes auxquelles elle n'a pas répondu. Nous gardons encore les coupons des récurrents. Certains qui avaient déjà reçu l'avis favorable et les formulaires ne sont pas servis jusqu'à ces jours.
Ces raisons ne passent pas chez beaucoup de requérants contactés par Radio Capi. Les uns disent avoir payé les frais et déposé leur dossier depuis plus de 2 mois.
Mon fils qui a 17 ans, donc pour avoir la carte d'électeur, il pouvait pas le faire parce qu'il n'avait pas l'âge. Maintenant, il vient de finir sa 6e des humanités, mais pour le passeport, il est déjà arrivé au niveau de la capture, donc on attendait que d'avoir le document. Une semaine après, je repose la question, on nous dit que l'ancienne firme a bloqué le serveur contenant toutes les données.
La nouvelle firme allemande, Dermalog, fait face à de nombreux défis et explique à Radio Capi un autre agent du ministère. D'après lui, contrairement à Locosem, l'ancienne société belge dont la production journalière était estimée à 3000 passeports, l'actuelle n'en produit que 400. Pour remédier à cette situation qui a perturbé les programmes de beaucoup de citoyens, certains proposent le renouvellement du contrat avec la firme belge Locosem, qui du reste réclamerait encore ses créances. Tous nos efforts pour avoir la version du ministère des Affaires étrangères ont été vains.
Santé au Maniema, la zone de santé des Kasongo, en alerte face à une situation sanitaire de plus en plus critique. À la 3e semaine de juin, plus de 17 cas de rougeole ont été recensés, dont 3 décès tragiques d'enfants de moins de 5 ans. L'alerte a été lancée par le réseau des médias pour le développement Remède qui appelle à une réaction rapide des autorités sanitaires. Augustin Munkina Ikinga, superviseur de la surveillance communautaire, exhorte exhorte le pouvoir public à intervenir d'urgence pour briser la chaîne des transmissions. Sans action rapide, la situation pourrait s'aggraver, prévient-il. Cette résurgence intervient malgré les efforts déployés ces derniers mois. En février 2025, Médecins sans frontières, MSF, avait mené une vaste campagne de vaccination dans cette même zone, immunisant plus de 40 000 enfants. Depuis le début de l'année, la province du Maniema a enregistré plus de 10 000 cas de rougeole et au moins 500 décès. Les défis logistiques, l'accès difficile aux zones reculées et une couverture vaccinale encore insuffisante compliquent la lutte contre cette maladie hautement contagieuse. Remède et MSF appellent à une mobilisation renforcée pour éviter une catastrophe sanitaire. Augustin Munkina s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons d'abord formé 1882 relais communautaires promotionnels. Après cette formation, le premier résultat est que les relais communautaires ont réalisé plus de 20 000 visites à domicile où ils ont trouvé des cas de rougeole. Il y a plus de 17 cas de rougeole avec 3 décès, dont une fille. Pour nous, c'est très dangereux. Vous savez que la zone de santé de Kasongo est une zone affectée par la guerre et c'est une zone aussi qui est victime des cas d'épidémie. Et donc, de notre côté, pour nous remèdes, avec l'appui financier de l'UNICEF, nous sommes en train d'accompagner les relais communautaires afin qu'ils organisent des visites à domicile pour informer la communauté sur les risques des maladies et orienter ces malades vers les structures de santé pour une prise en charge efficace. Mais quand cela ne tient, nous demandons aussi aux autorités provinciales de continuer à accompagner comme nous les relais communautaires afin de couper la chaîne de transmission par l'utilisation efficace des acteurs communautaires et profiter de ses capacités afin qu'ils continuent leur intervention au-delà de l'épidémie Mpox.
Mpox, la France remet officiellement 100 000 doses de vaccin à la RDC, un geste fort de solidarité sanitaire. Ce vaccin est destiné aux adultes vivant dans les zones à risque. La valeur de ces dons est estimée à 11 millions d'euros. La cérémonie de remise s'est tenue en présence de l'ambassadeur de France en RDC, Rémi Maréchaux, qui a souligné l'importance de la coopération internationale face aux menaces épidémiques. Ce geste s'inscrit dans une logique de responsabilité collective. Il reflète notre engagement dans l'approche One Health, une seule santé en français, et qui reconnaît l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale, a-t-il déclaré. Ce soutien s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la France et l'Organisation mondiale de la santé visant à renforcer les capacités de réponse aux épidémies dans les pays les plus exposés. Un extrait de l'intervention de l'ambassadeur Rémi Maréchaux a été sélectionné par Ronéline Tibonera.
En RDC, vous le savez mieux que quiconque, le Mpox est endémique. Depuis le début de l'épidémie, 21 500 cas ont été confirmés avec une mortalité préoccupante dans certaines provinces. Loin d'être une menace lointaine, il s'agit ici d'un enjeu national majeur de santé publique auquel il est impératif d'apporter des réponses rapides et durables. Les 100 000 doses de vaccins remises aujourd'hui témoignent de notre solidarité, mais aussi de notre vision stratégique d'une coopération sanitaire renforcée. Protéger les Congolais contre le Mpox, c'est aussi indirectement protéger les Français. Nous vivons dans un monde où une épidémie locale peut devenir mondiale en quelques semaines. La pandémie de Covid-19, que nous venons à peine de surmonter, nous a appris cette leçon avec une brutalité que personne n'a oubliée. C'est pourquoi la France agit ici non seulement en amie et partenaire de la RDC, mais aussi en actrice résolue de la santé mondiale. Notre action s'inscrit dans un paradigme global que nous promouvons activement, celui de une seule santé, ou One Health en anglais.
Clôturons ce chapitre avec la journée mondiale du vitiligo, célébrée ce 25 juin. Le vitiligo est une maladie dermatologique chronique caractérisée par une dépigmentation progressive de la peau. De plus en plus répandue, cette affection reste mal comprise et ses victimes sont souvent confrontées à la stigmatisation sociale. À cette occasion, la ministre de la Santé ad intérim, Yo Katanga, a adressé un message à la population annonçant une avancée majeure. Le lancement dans les mois à venir du tout premier laboratoire spécialisé dans le traitement et le suivi du vitiligo dans la province. Ce projet sera réalisé en partenariat avec l'Association franco-congolaise du vitiligo. Ce laboratoire sera un centre de référence pour améliorer la prise en charge des patients et sensibiliser la population à cette maladie encore trop méconnue, a déclaré Valériane Mumba dans un extrait recueilli par Jean Gandou.
Le vitiligo peut avoir un impact psychologique majeur, entraînant des troubles anxio-dépressifs, de l'isolement social et dans certains cas, une altération de la qualité de vie. Dans ce cadre, j'ai l'honneur d'annoncer l'officialisation du lancement du premier laboratoire d'anatomopathologie et centre de recherche et de diagnostic spécialisé sur les vitiligos et les maladies rares de la peau ici dans la province du Haut-Katanga. Ce projet est porté conjointement avec l'association franco-congolaise du vitiligo que nous saluons pour sa rigueur, son engagement communautaire et sa vision à long terme. Ce centre aura pour mission principale le diagnostic anatomopathologique spécialisé en vue d'une classification précise des lésions cutanées liées au vitiligo et autres dermatoses rares. La recherche clinique et translationnelle, notamment sur les mécanismes auto-immuns, les facteurs génétiques et environnementaux. L'ouverture officielle de ces centres est prévue dans les mois qui suivent.
Ituri, la guerre ne fait que nous appauvrir, lance l'évêque de Bunia. Un appel fort et empreint d'émotion à l'occasion du 20e anniversaire de son épiscopat célébré mardi à la cathédrale de Mudzi Maria à Bunia. Monseigneur Dieudonné Uringi, évêque du diocèse de Bunia, a exhorté les habitants et les acteurs engagés dans la recherche de la paix à œuvrer pour la pacification de l'Ituri. Dans son homélie, le prélat a exhorté les acteurs engagés dans le processus de paix à ne pas perdre de vue la détresse des populations prises en étau par des années de conflits. Il a insisté sur l'urgence du pardon et de la réconciliation pour permettre à l'Ituri de tourner enfin la page de la violence. Il est temps de penser à ceux qui souffrent, à ceux qui n'ont plus rien. La paix commence par chacun de nous, a-t-il martelé sous le regard attentif des fidèles et des autorités présentes. Un extrait de son message a été retenu par Jean-Claude Loki Dile, témoin de cette journée marquante pour l'Église catholique en Ituri.
Si j'ai appris quelque chose au long de ces 20 années écoulées, c'est ceci. Le plus beau service que nous puissions rendre à ce monde, c'est de lui dire que la paix est possible, que le pardon libère. Ainsi, je redis ma proximité à tous les Ituriens qui souffrent encore des affres de la guerre. Je vous invite tous à travailler pour la pacification de notre chère province de l'Ituri. La guerre ne fait que nous appauvrir et nous asservir. L'émergence d'une petite tranche de la population ne doit pas nous faire oublier que sans la paix, il n'y a pas de développement durable. Car le développement doit promouvoir tout homme et tout l'homme.
Nord Kivu, territoire de Beni, le comité international de la Croix-Rouge CICR a entamé ce mardi une vaste opération d'assistance humanitaire. Plus de 6500 ménages de retournés installés dans les localités des Kisima, Rugeti et Rusambo, situées dans le groupement de Basongora, bénéficient de cette aide composée des vivres, notamment de la farine de maïs, de l'huile, des haricots et du sel, ainsi que de biens non alimentaires. Cette assistance vise à soutenir des familles qui, après des années de déplacements causés par les attaques des ADF, ont récemment regagné leur village. Denis Kalenga, coordonnateur de la société civile du groupement Basongora, salue cette initiative. Ces gestes du CICR est un véritable soulagement pour des familles qui reviennent de loin.
Vous savez, c'est déplacé de guerre surtout dans le village de Masambo et Rugeti qui avaient fui les atrocités des ADF et qui y ont pris la résolution de retourner dans leur domicile, recommencent encore la vie à zéro. C'est-à-dire, dans la maison, il n'y aura absolument rien. Et c'est après un mois que le comité international de la Croix-Rouge, le CICR, a songé à apporter quand même un soutien à cette population longtemps meurtriée par les atrocités des ADF Nalu, ayant pris la bonne résolution de regagner leur domicile. C'est pour nous une occasion de remercier le comité international de la Croix-Rouge pour cette assistance apportée à notre population. Néanmoins, nous pouvons de même appeler d'autres organisations à assister certains enfants déplacés et retournés. Vous savez, la rentrée scolaire nous tend à l'horizon et c'est important de commencer de même à apporter une assistance en fourniture scolaire chez ces enfants dans le village Massambo et Rugeti.
Violence des Mobondo. De juin 2022 à juin 2025, cela fait exactement 3 ans que les exactions de la milice Mobondo ont débuté à Kwamutu dans la province du Maïndombe. Une spirale de violence qui s'est rapidement étendue aux provinces voisines du Kwilu, du Kwango jusqu'à Maluku dans la périphérie de Kinshasa. Les réseaux des ONG de défense de droits des déplacés internes qui a suivi de près cette crise dresse les bilans alarmants. Plus de 550 000 personnes déplacées, des milliers de morts et des blessés, sans compter les maisons, écoles et centres de santé réduits en cendres. Selon Kwengo Manzanza, coordonnateur du réseau, ces déplacés vivent dans des conditions inhumaines, sans aucune assistance humanitaire. Ils sont abandonnés à leur sort, sans abri, sans nourriture, sans soins, alerte-t-il. Face à cette situation dramatique, le réseau des ONG de défense de droits des déplacés internes appellent le gouvernement congolais à agir de toute urgence. L'organisation plaide pour une aide humanitaire immédiate et des efforts concrets en faveur d'une paix durable dans l'ex-grand Bandundu. Un reportage signé Irène Bomaluzolo.
Selon les réseaux des ONG de défense des droits des déplacés internes, Rodi en RDC, en espace de 3 ans, l'activisme de la milice Mobondo dans le Grand Bandundu a occasionné au moins 550 400 déplacés internes, plus de 5 000 morts, plus de 800 blessés, plus de 450 écoles, églises et maisons d'habitation incendiées et plusieurs biens de valeur pillés par les miliciens. Pour l'instant, la situation des déplacés est de plus en plus préoccupante, dénonce Kwengo Manzanza, coordonnateur national des Rodi RDC, qui en appelle à l'intervention du gouvernement central.
Les déplacés vivent sans accès adéquat à la nourriture, aux soins de santé, à l'eau potable, à l'éducation et à un abri. Ces mauvaises conditions de vie favorisent la malnutrition, les maladies hydriques et la détérioration de leur état de santé. Face à cette situation, les Rodi recommandent au gouvernement de la République d'assister ces déplacés, d'organiser un forum de paix et de réconciliation avec les vrais acteurs afin de ramener la paix.
Kwengo Manzanza plaide aussi pour l'identification et la reconstruction des infrastructures détruites par ces assaillants dans la région du Grand Bandundu. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Au Japon, le stand de la RDC séduit à l'Expo Osaka 2025, il attire chaque jour de nombreux visiteurs intrigués par la richesse de la biodiversité et de la culture congolaise. Sur place, le reporter de Radio Okapi rapporte que plusieurs Japonais se sont montrés particulièrement impressionnés par les clichés d'animaux exotiques emblématiques du pays comme les bonobos et l'okapi. À proximité, un écran diffuse des images spectaculaires des chutes de Zongo tandis qu'une vitrine expose un échantillon des malachites aux pierres précieuses typiques au Congo. Autre attraction qui capte l'attention, une série de photos mettant en lumière les célèbres sapeurs, ces passionnés de mode au style raffiné et audacieux incarnant l'élégance à la congolaise. Alain Hirong, envoyé spécial de Radio Okapi, a visité le stand de la RDC. Voici son reportage.
Le stand de la RDC se trouve au pavillon commun D qui regroupe plusieurs autres pays. Il est situé en face de celui du Soudan du Sud et à côté de celui du Burkina Faso. Parmi les visiteurs, nous sommes surpris par une voix féminine qui nous salue en lingala.
Mbote, mbote mama, yo ozalaki na Congo, osepeli mingi. Vous avez été au Congo en quelle année?
1985. 85 à 89.
Madame Reiko Doi, c'est d'elle dont il s'agit, dit avoir vécu en RDC en 1985, plus précisément à Boindé, dans la province de l'Équateur, dans le cadre de la recherche scientifique. Elle n'est pas la seule, une autre dame japonaise parle avec ferveur de sa foi catholique. Elle affirme connaître un prêtre congolais responsable d'une paroisse à Tokyo.
Mon père est venu de
le Congo. Donc, je suis catholique. Mon nom de baptême est Marie Pékin.
Depuis le site de l'exposition internationale Osaka 2025, Alaïro Moshej, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Nigeria, une attaque meurtrière a visé une base militaire dans l'état du Niger, à l'ouest du Nigeria, faisant au moins 20 morts parmi les soldats, selon des sources militaires et de services de renseignement. Ce mercredi, l'armée nigériane a confirmé la mort de 17 soldats sur son compte X. Cette région, comme d'autres états du centre et du nord-ouest du pays, est régulièrement la cible de violences perpétrées par des groupes armés qualifiés localement des bandits. Ces gangs criminels mènent des raids sanglants dont les villages enlèvent des civils contre rançon et incendient les habitations après les avoir pillés. Dans un communiqué publié sur X, l'armée nigériane a précisé que ses troupes avaient affronté environ 300 assaillants lourdement armés dans un combat qui a duré plus de 3 heures. Si le nombre exact des victimes parmi les bandits reste inconnu, l'armée affirme que de nombreuses traces de sang le long de leur voie de retraite témoignent de pertes importantes dans leur rang.
L'invité.
Et Eugène Diomi, ancien ministre des Mines, salue l'accord miné entre Kinshasa et Washington qu'il qualifie de véritable plan Marshall pour la République démocratique du Congo. Dans un entretien accordé à Radio Capi vendredi dernier, il a exprimé son enthousiasme quant à ce partenariat stratégique, estimant qu'il pourrait non seulement favoriser le retour de la paix dans l'est de la RDC, mais aussi permettre la certification et la monétisation de ressources minières congolaises. Selon lui, cette dynamique est porteuse d'un développement à la base à travers la création d'emplois et la construction d'infrastructures essentielles. Il répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur Eugène Diomi Ndongala.
Bonjour.
Ancien ministre des Mines, quelle analyse faites-vous de l'accord minier entre Kinshasa et Washington?
Cet accord minier, c'est une très bonne chose pour notre pays. Nous avons des potentialités, mais il faudra monétiser ces potentialités dans une démarche susceptible d'apporter des capitaux afin de sécuriser et d'implanter un nouveau décor par rapport au développement de notre pays. Un accord de ce genre, ça serait comme un plan Marshall qui a été lancé pour le développement de l'Europe. Aujourd'hui, c'est une chance historique d'avoir un tel plan par rapport au développement de notre pays, en apportant tout d'abord une stabilité sécuritaire, une stabilité financière, qui va nous permettre en fait d'avoir des potentialités qui seront monétisées demain pour permettre le développement de notre pays dans tous les secteurs.
Que répondez-vous à ceux qui estiment que le régime Tshisekedi risque, avec ses partenariats, de brader les richesses de la RDC?
Les richesses ne peuvent pas être bradées dans la mesure où ce sont des potentialités qui vont être rentabilisées pour la première fois. Vous savez que nos richesses aujourd'hui sont tellement bradées, contrairement à un engagement qui serait élaboré sous forme d'un plan de développement de notre pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exploitants artisanaux. Il y a des étrangers qui s'infiltrent derrière ces exploitants artisanaux. Nous connaissons les cas des Chinois qui exploitent anarchiquement nos richesses et qui parfois exportent même les terres, c'est-à-dire des potentialités non transformées. Mais pour la première fois, nous avons un deal international qui est sécurisé tout d'abord par un engagement sécuritaire entre les pays qui nous agressent depuis des années, mais l'accord minier ne concerne que les États-Unis. C'est-à-dire, on peut intégrer aussi des voisins qui veulent participer dans le développement de notre secteur minier. Mais le plus important, c'est que les États-Unis tracent un plan pour le développement de la RDC.
Alors, que préconisez-vous pour assainir les secteurs miniers congolais?
Le secteur minier congolais, vous savez qu'il est pollué par le fait qu'il n'y a pas un contrôle vigoureux, tenant compte tout d'abord de toutes ces exploitations illégales qui ne sont pas inventoriées, alors que nous avons un code minier. Vous savez que je suis le premier ministre qui a milité pour la promotion et la divulgation du code minier lorsqu'il a été signé. Il y a beaucoup de failles dans la mise en œuvre de l'exécution de ces codes miniers. Il faudrait vraiment tirer les avantages que tracent les codes miniers en faveur de notre pays. Mais souvent, par manque de contrôle, par manque de suivi, par manque de traçabilité, les avantages du code minier nous échappent. Alors il faudrait maintenant centraliser toutes les données minières, faire en sorte qu'il y ait un suivi dans la gestion du secteur minier, permettre à ce que le tremplin que vient de donner l'accord dans le secteur minier avec les États-Unis puisse être orienté vers le développement du secteur minier. Vous savez que nous ne pouvons pas limiter notre secteur minier à une simple exploitation. Nous devons aller vers la transformation de nos ressources. C'est ce qui apportera un plus-value par rapport à la production minière que nous avons dans beaucoup de provinces du pays. Vous savez que la crise qu'il y a à l'est de la République frappe bien sûr, mais nous avons des potentialités énormes dans d'autres provinces de la RDC. Et si nous rentabilisons ces potentialités par rapport à un plan qui est lancé par une sécurisation qui va nous permettre de monétiser nos ressources, ça peut créer de l'emploi, des potentialités énormes par rapport à notre économie. Nous félicitons le président de la République pour avoir entrepris cette initiative.
Au moins 17 personnes ont péri dans un éboulement sur les sites miniers de Bitatama. Nous sommes dans les territoires de Masisi. En tant qu'ancien ministre des Mines, que préconisez-vous pour éviter de tels incidents dans les jours à venir?
C'est une triste nouvelle, mais ce sont des choses que nous pouvons éviter. Dans le secteur minier, nous avons le CESCAM qui devrait s'occuper des artisanaux. Mais malheureusement, les énergies sont dispersées. Il y a même des financements miniers qui sont prévus pour l'encadrement de tout cela. Il faudrait que les services qui sont habilités à faire le suivi des artisanaux, les CESCAM, puissent se mettre au travail.
Monsieur Eugène Diomi Ndongala, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Invité de ce journal, Eugène Diomi, ancien ministre de Mines, salue l'accord minier conclu entre Kinshasa et Washington. Selon lui, cet accord pourrait non seulement contribuer au retour de la paix dans l'Est de la RDC, mais aussi permettre la certification et la valorisation économique des ressources minières du pays. C'est la fin de ce journal sur Radio Okapi, à la mise en œuvre de Jean-Claude Nsiala, coordination Richard Junior Kamunga, supervision Martin Sebujangwe, présentation Gisèle Cage. Restez connectés avec nous via WhatsApp en suivant les liens disponibles sur nos pages Facebook et X, anciennement Twitter. Pour plus d'articles, d'analyses et d'informations, rendez-vous sur notre site www.radiocapi.net. Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Très bonne soirée à toutes et à tous.